zing zing.
Big up, je remémore. Toi, tu cherches tes problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Vous travaillez à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux ou les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à l'évolution.
La voie dérobée, le coin de cloison est prêché. Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord. Mes propres boîtes de Pandore, boîte noire et caisse d'or. Mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement. Sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants. Parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort. Le vrai bug, le faux raccord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps. La doublure, le doublon, canoncier dans le double fond. Le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image. Le plus parfait des parfaits, camouflage. Le trompe-l'œil épique, l'exacte réplique. Au carbone 14, certifié authentique. Mon 20 mesures cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre, et des territoires libérés s'inventent. Au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les cleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Canu, Radio Rebelle. Il est 20h41 exactement, ce qui veut dire que, à mon habitude, je me permets de prendre un peu plus tôt, parce que normalement cette émission commence qu'à 21h, mais vu qu'il y a que la bande continue avant, et que j'ai des trucs en général assez longs dans l'émission, et que par ailleurs je la fais qu'une fois toutes les deux semaines pour des raisons personnelles, voilà, je me dis, allez, pourquoi pas. Donc au menu de l'ISC Angle Mort, je disais, donc émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Et au menu de ce soir, eh bien, autant les dernières fois on s'était passé une des conférences de chercheurs en sciences sociales, on va dire. Là, ce soir, ça va être un peu différent. Notre format, ça va être la lecture d'un article que j'ai trouvé très intéressant, qui est paru dans le Monde Diplomatique, le journal Le Monde Diplomatique de septembre 2015. Un article qu'on doit au journaliste Maxime Robin, et on le remercie de cet article intéressant, et qui s'intitule « Aux États-Unis, l'art de rançonner les pauvres ». retour de l'usure dans une société gangrénée par le crédit. Et puis, entre cette lecture, on en profitera aussi pour passer de la musique. De la musique. À ce titre, on remercie tous l'ami Seb, le néo-polonais, qui a contribué à cette émission en nous envoyant quelques titres liés de près ou de loin au thème dont il sera question donc ce soir, puisqu'il sera question de l'argent, des banques, de la pauvreté, à travers le cas états-unien, sachant que bien évidemment il y a des choses spécifiques aux États-Unis. Là, ce qu'on va parler, ça sera des choses spécifiques aux États-Unis, mais la pauvreté, on l'a aussi chez nous. Donc je rappelle le titre de cet article: aux États-Unis, l'art de rançonner les pauvres, retour de l'usure dans une société gangrénée par le crédit. Et puis on commence tout de suite avec un petit peu de musique sur Radio Canu, émission Angle Mort.
Oh non, j'ai plus la bourse, Pearson Grant. Il consacre les fonds à une étude sur les bons élèves qui sont trop pauvres pour aller en fac. Et il m'offre $50 pour faire partie de l'étude.
Peu importe, il nous faut cet argent et on le trouvera.
Class War.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit jobs for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war. It's a class war.
Class war. Class war.
Class war.
Yeah. Fuck yeah. Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious. Hip hop.
It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
It's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class war.
Say it loud.
It's a class war.
Yeah, yeah.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
It's a class war.
Yeah.
It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the way. Today it's a class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class
war. What's class got to do with it?
It's about power. It's about power.
Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala
Vista. Class conscious hip hop.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through.
Mala Vista.
yeah, EK crew bringing you class war. Malatesta on production. You know. Yeah.
Class war.
What's up?
D-Dog. Drowning Dog.
Coming through, check.
Class consciousness.
Impossible, ou presque, de vivre aux États-Unis sans contracter un emprunt. Devant les difficultés de leurs clients à rembourser, les banques augmentent les pénalités et leurs profits. En revanche, dans certains quartiers défavorisés, elles refusent d'ouvrir des agences. Les habitants doivent alors avoir recours aux échoppes de prêteurs rapaces. Au comptoir d'un check cashier, le long de Broadway, une artère de Central Brooklyn assombrie par le métro aérien de New York, M. Carlos Rivera demande un sursis. « Je n'ai pas les 10 dollars », lance-t-il à l'employé derrière la vitre. À Brooklyn, ces boutiques sont omniprésentes. Les pages jaunes en recensent 268. On les reconnaît à leurs façades colorées et décrépites, à leurs néons, aux symboles du dollar et aux mots « cash » sur les vitrines. Outre les transferts d'argent liquide, elles assurent l'encaissement des chèques à l'ordre d'habitants qui n'ont pas de compte en banque. Le montant est converti en espèces moyennant une commission autour de 2% pour 100 dollars plus frais divers. Elles proposent aussi des prêts de très court terme à des taux d'intérêt très élevés. À l'échelle nationale, ces milliers d'échoppes forment une industrie financière puissante, multiforme, désignée par le terme générique de Predatory Lenders ou Prêteurs Rapaces. Un surnom dû à un modèle commercial agressif. On ne lâche jamais un emprunteur, qui rembourse souvent une dette contractée lors d'un premier emprunt, en souscrivant à nouveau.
Dis-moi papa, je me demandais, vous avez des économies sur un compte épargne ou...
Quand je raconterai ça à ta mère, elle sera écroulée.
Argent, mon ami, tu n'es pas très fidèle. Tu n'es pas souvent là quand j'ai vraiment besoin de toi. Mon ami le
168,45 €, ne nous est pas encore parvenu. Sans nouvelles de votre part avant le 17-11-2003, nous serions malheureusement dans l'obligation de limiter très fortement nos fournitures ou de les suspendre.
Je vous rappelle que le locataire de votre propriété...
For everybody who's a member of the working class.
What's up?
Hey, dog.
Drowning dog.
Coming through. Check, check.
Class consciousness hot.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid.
Des centaines de déserts bancaires. Malgré leur succès fulgurant, ces prêteurs sans scrupules, donc ces prêteurs rapaces, n'ont pas bonne presse dans le pays. Les États essayent tant bien que mal de brider leurs activités. Le produit financier le plus ravageur est interdit dans celui de New York, mais légal en Californie. C'est le payday loan, ou prêt sur salaire, soit un emprunt à ultra court terme, 15 jours au plus, qu'on en rembourse le jour de sa paye, avec de gros intérêts. Un client peut ainsi obtenir un prêt de $300, qu'il rembourse $346 le jour où il touche son salaire. Cette industrie, qui n'existait pas il y a 20 ans, a généré l'an dernier 46 milliards de dollars de profits. Il existe désormais aux États-Unis plus de prêteurs rapaces que de McDonald's et de Starbucks réunis. Le Centre pour une finance responsable, Center for Responsible Lending, chargé d'en répertorier les abus, estimait à sa création en 2002 que le coût total de ces emprunts s'élevait à 9,1 milliards de dollars en intérêts de toutes sortes et en saisies en cas d'insolvabilité. 13 ans plus tard, ils s'avouent désormais incapables de calculer leur impact. Le total s'élève à plusieurs centaines de milliards de dollars, s'alarmait-il au mois de juin. Cela plombe la vie de millions d'Américains, mais aussi du pays dans son ensemble. Un pauvre aux États-Unis paye déjà davantage pour tout. Prestations quotidiennes, alimentation, assurance. Le concept de poverty penalty, pauvreté pénalisante, n'est pas neuf. David Kaplowitz l'avait théorisé dès 1967 dans un précis de sociologie devenu un classique « The poor pay more », les pauvres paient plus. Son analyse reste pertinente. Les pauvres paient plus cher pour un litre de lait et pour des logements de moins bonne qualité, s'alarmait en 2009 M. Earl Blumenauer, député démocrate de l'Oregon. Les 37 millions d'Américains qui vivent sous le seuil de pauvreté et les 100 millions d'autres qui se débattent pour intégrer la classe moyenne payent pour des choses que la classe moyenne considère comme un dû. Un exemple parmi d'autres. Selon un rapport d'une association de consommateurs américaine, les grilles tarifaires des principales compagnies d'assurance automobile accordent plus d'importance au niveau d'études de leurs clients et à leur situation professionnelle qu'à la fiabilité de leur conduite. Dans 2/3 des cas examinés, les bons conducteurs pauvres payent plus cher, autour de 25%, que les riches qui ont déjà causé un accident. Il faut être riche pour mener une vie de pauvre, constatait ironiquement le Washington Post, en recensant les petites choses de la vie qui pénalisent les travailleurs impécunieux. Temps perdu dans les transports, files d'attente de toutes sortes pour des services de moins bonne qualité, etc. Le tout sans marge pour les loisirs ni de droit à l'erreur. Ces vies réglées au cordeau prennent parfois un tour tragique, comme celle de Maria Fernandez, morte en septembre 2014 dans sa voiture sur un parking du New Jersey. Employée depuis 4 ans par la chaîne de restauration rapide Dunkin' Donuts, cette femme de 32 ans cumulait 3 postes. Un poste l'après-midi, un poste en nuit, un poste le week-end. Dans 3 établissements différents, pour assurer l'éducation de sa fille, et gagnait le salaire minimum alors en vigueur dans l'état du New Jersey, à savoir $8.25. Elle payait $550 par mois pour un meublé où, de fait, elle ne dormait que très rarement. Elle se reposait plutôt dans sa voiture, moteur et climatisation en marche pour rafraîchir l'habitacle, tout en gardant un bidon d'essence sur le siège arrière. Ce bidon s'est accidentellement renversé durant l'une de ses siestes, répandant des fumées toxiques qui l'ont asphyxié. Alors bien sûr, un porte-parole de Dunkin' Donuts lui a rendu hommage dans un communiqué en la qualifiant d'employé modèle. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si elle est, si c'est pas plutôt qu'elle est modèle parce qu'elle est typique de ce qui se passe. Bon bref, ça c'était moi. Ah, oh, c'était mal. Ah, oh, c'était raté ça. Oh, c'était raté cette sorte d'intrusion de l'animateur sur un texte pourtant bien écrit. On poursuit avec un petit peu de musique.
C'est pas croyable. Ils ont utilisé nos fonds de pension pour payer le studio d'enregistrement de la maîtresse de notre PDG.
Efficiency in progress is ours once more. song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Retour au Cheikh Kasher de Brooklyn. La guichetière propose un arrangement à Monsieur Rivera. Le remboursement de sa dette pourra attendre le lendemain. Elle l'appelle par son prénom, il est visiblement un habitué. Soulagé, il passe un bref coup de fil promettant, en anglais, de rembourser son correspondant. Puis, il repart pousser un chariot de supermarché le long des rues. Il le remplit de bouteilles à recycler. La consigne dans les supermarchés alentours est de 10 centimes la bouteille. Il vit aussi de petits boulots au noir dans la construction. Il a été client d'une banque, jadis, il ne sait plus bien quand. Les établissements financiers traditionnels ouvrent moins d'agences dans les quartiers à bas revenus. L'aire définie par le code postal de M. Rivera, Stuyvesant Heights, en compte seulement 2 pour 85 000 habitants. Un désert bancaire, comme on en trouve 650 dans le pays. Par un paradoxe vertigineux, Stuyvesant Heights se situe à 10 arrêts de métro de Wall Street, centre névralgique de la finance mondiale. Ouvrir des agences dans les quartiers défavorisés, cela ne vaut pas le coup pour les banques, nous explique Lisa Servone, professeure de politique urbaine à la New School de New York. Les habitants y représentent davantage un fardeau qu'une source de profit. Ils ne déposent pas d'argent et passent trop de temps au guichet. Les banques recherchent l'inverse, des clients qu'elles ne voient jamais et qui déposent de l'argent. Les chèques cachers les ont donc remplacés dans les quartiers pauvres, en fondant leur modèle économique sur un service de proximité, sur la diversification des services, vente de cartes SIM prépayées, loto, etc. Et sur un pourcentage prélevé à chaque transaction. Les banques veulent un seul client riche de 1 million de dollars. Nous voulons 1 million de clients riches de 1 dollar. Résume sans embâge M. Joe Coleman, président de RideCheck, une importante enseigne qui dispose de 12 antennes dans le Bronx et à Harlem. Pour les pauvres, ces établissements sont le dernier recours, avant les emprunts informels dans la rue, à leur risque et péril, hors de tout cadre légal, auprès de loan sharks, c'est-à-dire des usuriers. Ces individus, en lien avec la petite ou grande criminalité, recourent, on le sait, à la violence pour récupérer les sommes empruntées, augmenter des intérêts.
Vous avez besoin de 8000 dollars.
C'est ça.
Très bien. Voilà comment ça marche. Vous revenez la semaine prochaine.
Ce ne sera pas nécessaire que je revienne. Je ne vous rembourserai pas.
Je vais vous expliquer.
Je n'aurai jamais l'argent pour rembourser ma dette. En revanche, plutôt que de vous faire perdre votre temps en stupides avertissements, en coups de téléphone inutiles où j'inventerai de fausses excuses jusqu'à user vos nerfs, je crois que le mieux serait de me casser les deux jambes tout de suite.
Vous croyez ?
Oui. Vous décidez quand. Je suis à votre disposition. J'arrive et vous fracturez. Les jambes, les bras, ce que vous voulez. Invitez qui bon vous semble. Je vous promets de hurler, de pleurer et d'implorer votre pitié. Et ce sera si horrible à voir et à entendre que plus personne ne sera jamais en retard pour vous payer. Tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de publicité.
Et je pourrais aussi ne pas vous prêter l'argent et vous casser les bras et les jambes. J'obtiendrai le même résultat.
Oui, mais... Dans ce cas, je crains que vos motivations soient plus ambiguës. On va peut-être y réfléchir encore. La nuit porte conseil.
Life. I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Si les pauvres n'intéressent pas Chase ou Bank of America, la réciproque est vraie aussi, selon les travaux donc de Lisa Servon, professeure de politique urbaine à la New School de New York. Les pauvres préfèrent les chèques cachers parce qu'ils paieraient encore plus cher avec les banques, en raison des frais de dépassement et des agios, donc des frais occasionnés par un découvert, explique-t-elle. Les banques sont plus gourmandes et ne proposent pas de petits crédits à court terme adaptés à leurs besoins. Chaque établissement dispose d'un arsenal moyen de 49 sanctions possibles pour un compte courant. Un simple retrait dépassant le découvert autorisé peut entraîner des pénalités en cascade. Selon les statistiques obtenues auprès des 10 plus grandes banques américaines par la Federal Deposit Insurance Corporation, l'organisme assurant les banques, la moitié des découverts sont provoqués par des dépenses inférieures à $36. Et si les découverts étaient considérés comme des emprunts à court terme, leurs intérêts atteindraient le taux à peine imaginable de 5000% par an. En 2011, les banques américaines ont réalisé un profit de $38 milliards uniquement en facturant des agios. Elles sont de plus en plus chères, commente Servon. L'instabilité financière des Américains a augmenté. Leurs revenus sont volatiles. Ils cumulent plusieurs emplois, rapides des heures ici et là. Leurs chèques n'ont pas le même montant à la fin de chaque mois. Ils n'ont pas de budget provisionnel. Ils manquent d'argent, les déficits sont réguliers, les pénalités s'accumulent. Il n'est pas rare de rencontrer quelqu'un qui bénéficiait d'un salaire stable avant la crise et qui occupe désormais deux emplois précaires à temps partiel, payés à l'heure. Les frais de santé, d'éducation, de garderie ont explosé. Et les employeurs offrent moins de prestations sociales alors que les Américains doivent gérer de plus grosses dépenses. Il n'y a plus de droit à l'erreur. C'est le cœur du problème. Un Américain dans la norme est un Américain endetté qui rembourse les échéances en temps et en heure. Hors des radars du système bancaire, près de 10 millions de foyers américains ne disposent pas du credit score, code de crédit, c'est-à-dire un outil essentiel pour jouir d'un statut social correct aux États-Unis. Ce credit score, un nombre à 3 chiffres, démarre généralement à 300, très médiocre, et plafonne à 850, très bon, avec des variantes commençant à 100 ou terminant à 990 selon les établissements bancaires. Cet identifiant personnel devient aussi important qu'un numéro de sécurité sociale. Inconnu en France, le dossier de crédit conditionne la vie entière d'un citoyen nord-américain. Il atteste que l'on rembourse ses échéances à temps et que l'on est suffisamment digne de confiance pour pouvoir emprunter. Au départ réservé aux banques pour des prêts immobiliers, le dossier de crédit peut être consulté par un commerce, par une assurance, par un propriétaire avant la location d'un bien, ou même par un employeur potentiel. Une bonne cote est une source de fierté. Elle s'immisce jusque dans les sites de rencontres en ligne, où elle permet de juger si votre situation financière est suffisamment saine pour qu'il vaille la peine d'engager la conversation avec vous. Une facture en retard l'affecte aussitôt. Si les problèmes s'accumulent, elle dégringole, et les banques s'arrogent le droit d'augmenter leur taux d'intérêt. Le pire demeure l'exclusion bancaire, faute d'avoir pu construire une cote de solvabilité. On devient alors credit invisible. Les portes se ferment, la vie devient plus chère et plus compliquée. Selon un rapport du Bureau de protection financière des consommateurs, le Consumer Financial Protection Bureau, qui est une agence fédérale, 30% de la population des quartiers à bas revenus est exclue du crédit. À l'échelle nationale, cette marque d'infamie touche d'ailleurs davantage les Noirs et les Hispaniques, 15% d'entre eux, contre 9% des Blancs et des Asiatiques. Alors que l'Europe privilégie l'épargne, la société américaine encourage fortement le crédit. L'endettement des ménages est en expansion constante. Ne pas être endetté est un signe de mauvaise santé financière. Actuellement, chaque foyer dispose en moyenne de 8 cartes de crédit et, selon l'Urban Institute, l'encours moyen des crédits à la consommation s'élève à $15 000 par famille. Un événement survenu à la fin des années 1980 a bouleversé à bas bruit des structures économiques anciennes. Il s'agit de la déréglementation du taux d'usure, autrement dit, la disparition des plafonds des taux d'intérêt bancaire. Cela a permis à un très grand nombre d'Américains d'accéder à l'emprunt. En contrepartie, les banques ont obtenu le droit de fixer les taux d'intérêt dans une opacité presque totale. le taux de faillite personnelle a alors explosé et les prêts à la consommation ont atteint des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression. C'est la seule industrie capable d'agir de cette façon, s'insurgeait en 2004 Madame Elizabeth Warren. Cette figure de l'aile gauche du Parti démocrate a passé sa carrière à dénoncer les abus de l'industrie du crédit. Elle est à l'origine de la création en 2010 suite à la crise du Bureau de protection financière des consommateurs dont on a parlé. Elle a longtemps enseigné du reste le droit financier à Harvard. Et pour illustrer l'opacité de l'industrie bancaire, elle se déclare elle-même incapable de calculer les intérêts des crédits qu'elle a contractés.
Tu es encore plongé dans les factures ?
Comment je fais pour reconnaître les plus urgentes ? Dernier avertissement avant poursuite a l'air plus sérieux que avertissement avant saisie. Mais le rose est plus inquiétant que le jaune. Et sur celui-là, il y a une formule de politesse.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Hey, dog.
Drowning dog.
Coming through. Check, check.
Class consciousness hot.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid.
On poursuit la lecture de cet article du journaliste Maxime Robin, paru dans le journal Le Monde Diplomatique de septembre 2015, sous le titre de « Aux États-Unis, l'art de rançonner les pauvres, retour de l'usure dans une société gangrénée par le crédit ». En fait, j'ai pris plutôt l'émission, le direct, parce que je pensais que j'aurais du mal à faire tout ce qu'il y avait à dire dans l'heure. Puis en fait, je vois qu'il est 21h17, c'est que j'arrive quasiment au bout de la lecture de cet article. Donc on va y aller encore plus tranquille. Pour resituer, hein, pour ceux qui prennent en route, donc il s'agit d'un article qui porte sur l'essor, la prolifération, on pourrait dire, des chèques cachers, c'est-à-dire d'une industrie de prêteurs rapaces qui se développe dans des zones urbaines, en fait, qui sont des déserts bancaires, parce que les banques, en fait, ne trouvent pas d'intérêt dans ces zones où il n'y a que des pauvres. Parce que les banques, ce qu'elles cherchent, c'est des gens qui sont pas trop au guichet et puis qui mettent beaucoup beaucoup d'argent. Et donc c'est pas le cas des pauvres. Et donc en lieu et place des banques se développe une industrie de prêteurs rapaces qui fait des produits, on va dire, financiers, je sais pas si on peut dire ça, adaptés aux pauvres, mais qui donc par exemple des prêts sur salaire, hein, c'est-à-dire un emprunt à ultra court terme, 15 jours au plus, qu'on va rembourser le jour de sa paye, mais avec des gros intérêts. Genre on a un prêt de $300, mais on va devoir rembourser $346 le jour où on va toucher son salaire. Donc tout un tas de produits ajustés aux pauvres, mais qui font aussi que ça entretient un phénomène qui avait été montré dès les années 60 dans un ouvrage de sociologie intitulé The Poor Pay More, c'est-à-dire entretient un phénomène sur lequel les pauvres sont amenés à payer plus. Et quand on recense effectivement toutes les choses de la vie, on voit que les travailleurs pauvres payent plus, donc ils passent plus de temps dans les transports, parce qu'ils doivent passer par les transports publics, ils ont des files d'attente de toutes sortes pour des services de moins bonne qualité. Donc toutes les choses qui sont en fait dues, que la classe moyenne va considérer comme dues, les pauvres vont devoir lutter et payer pour ce qui est dû à la classe moyenne. Et donc elle traite cet article cette prolifération de ces chèques cachers, de ces prêteurs rapaces, mais aussi des conditions économiques et sociales qui ont rendu cette prolifération possible. Donc à savoir déjà, donc je le disais, le fait que les banques s'intéressent peu aux pauvres en tant que clients, hein, bien sûr. Le fait aussi du coup que les pauvres leur rendent bien en ce que finalement les banques pour eux sont très chères. Il y a des agios, etc. qui sont des coûts très très élevés. Et au fond, ce que ça renvoie, c'est donc, on en était un peu dans cette partie, c'est-à-dire ça renvoie à une société qui valorise très fortement l'endettement et qui a développé des choses du genre, donc des choses très intéressantes, hein, moi je ne connaissais pas du tout, donc ce credit score, c'est-à-dire ce nombre à trois chiffres qui va donner un indicateur de est-ce qu'on est un bon ou un mauvais payeur, qui paye bien ses factures ou pas, ou en retard, etc. Et qui au départ était réservé donc aux banques pour donner au moment de prêt immobilier, donc pour savoir si effectivement on prenait des risques ou pas à faire un prêt, mais qui maintenant peut être consulté donc par un commerce, par une assurance, par un propriétaire avant la location d'un bien, par un employeur potentiel, par des sites de rencontres, etc. Et donc derrière tout ça, donc on voit apparaître une société américaine donc qui privilégie qui encourage le crédit, qui fait que chaque ménage, chaque foyer dispose en moyenne de 8 cartes de crédit, s'endette très fortement. Et là où le problème survient, c'est pas tant le crédit en tant que tel, c'est qu'il y a une déréglementation du taux d'usure, c'est-à-dire des plafonds des taux d'intérêt bancaires, ce qui a permis, donc on disait, à de nombreux Américains d'accéder à l'emprunt, mais en contrepartie, les banques ont obtenu le droit de fixer des taux d'intérêt dans une opacité presque totale. Et donc ce qui a entretenu des faillites personnelles, les prêts à consommation ont atteint des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression. Je reprends donc la lecture de cet article, L'art de rançonner les pauvres aux États-Unis. Des dettes pour assurer le minimum vital. Les membres de la classe moyenne, et ceux qui travaillent pour y accéder, demeurent la principale source de profit des banques, en raison des problèmes qu'ils rencontrent pour rembourser leurs emprunts et des pénalités qui s'accumulent. pour Madame Warren, donc on le disait tout à l'heure, figure de l'aile gauche du Parti démocrate, et très investie dans la cause donc des abus pardon, de l'industrie du crédit. Ce sont eux, ces classes moyennes, qui portent à bout de bras l'industrie du crédit. Les gens en difficulté, elle dit, proches de la faillite, ceux qui ne peuvent payer que le strict minimum, pardon, chaque mois, pour rembourser leurs intérêts, qui payent parfois en retard, qui font de temps en temps un chèque sans provision, qui loupent une échéance par-ci par-là. Dans l'Oregon, Madame Claire Schraut, infirmière, mariée, deux enfants, appartient à cette catégorie. Un grain de sable a fait dérailler sa vie de famille. Le cancer de son mari, alors qu'elle était enceinte de leur deuxième garçon. Quand j'ai accouché, mon mari finissait juste sa chimiothérapie, raconte-t-elle. Elle n'a jamais pu épargner pour se constituer un fonds d'urgence à cause d'emprunts contractés durant ses années d'études. Des milliers de dollars partaient chaque mois. Son mari a dû abandonner son travail en raison de sa maladie et elle aussi a dû quitter le sien pendant 4 mois. Sans revenu, raconte-t-elle, on a dû emprunter pour payer les dépenses médicales et assurer le quotidien. Pour rembourser le premier crédit, on en a pris un deuxième. Pour payer le deuxième, un troisième. C'est ainsi que les ennuis ont commencé, juste pour vivre. Maladie d'un conjoint, courroie de transmission d'une voiture qui lâche, emprunt de jeunesse qui vous rattrape, la perspective d'une faillite personnelle est de moins en moins abstraite, y compris au sein de la classe moyenne. Pour l'industrie du crédit, monsieur et madame Schraut sont des clients parfaits. Madame Schraut a obtenu son diplôme à l'université de l'Oregon dans les années 1990. Le prix de ses études a été très modique, entre guillemets, surtout comparé à maintenant. À la rentrée, sur les pelouses du campus, elle se souvient de grandes tentes où l'on proposait aux étudiants des cartes de crédit dans une atmosphère de fête. Elle raconte. Les représentants étaient jeunes comme nous. Ils portaient des t-shirts colorés. Si on signait pour un crédit, on gagnait un repas gratuit ou un frisbee. C'est stupide, mais quand on a 17 ans, c'est enivrant. On se dit qu'on peut faire ce qu'on veut en un claquement de doigts. On gagnera bien assez plus tard pour rembourser. En 4 années d'études, Madame Schraut a signé pour 5 cartes de crédit différentes. C'est devenu une manière de régler les problèmes. À son mariage, à l'âge de 28 ans, elle gagnait 25 000 dollars par an, mais cumulait 13 000 dollars de dettes. Son mari, 8 000. Ses parents, eux, ont fait leurs études au Boston College. Mais ni l'un ni l'autre n'avait souscrit d'emprunt pour les payer, comme c'est la règle maintenant. Pour son père, un job dans une station-service, assorti d'une bourse, avait suffi. À la rentrée 2015, une année d'études au Boston College coûte 48 540 dollars par an. 62 820 dollars avec chambre sur le campus, selon le site de l'établissement, donc en 2015. Les foyers américains ne contractent pas de dettes pour s'offrir une piscine ou un 4x4, mais pour assurer l'essentiel. Logement, santé, voiture, éducation, assurance. Dans d'autres pays mieux organisés, les gens n'ont pas de dettes, de santé ou d'éducation, soupire avec envie Madame Schraut. Si j'étais une mère en Suède, notre histoire serait bien différente et j'aurais eu plus de 10 jours de congé maternité. Je ne veux pas faire porter le chapeau à la société ou aux organismes de crédit, j'ai ma part de responsabilité, mais aux États-Unis, les jeunes sont davantage exposés à la dette que partout ailleurs. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est la porte ouverte à des situations dramatiques. Le système entier peut devenir prédateur. Les dettes de M. Rivera ou de Mme Schraut sont de petits ruisseaux. À l'échelle nationale, elles forment la grande rivière des emprunts, qui a gonflé de 22% ces 3 dernières années. En 2014, le crédit à la consommation a même atteint un pic historique de 3 200 milliards de dollars.
Ça fait des milliers d'années qu'on est du mauvais côté du manche, et en ce qui me concerne, j'en ai plus qu'assez.
Live my life with the paper in it, and in the back. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness hot.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental.
Toujours à l'écoute de Radio Canu, émission Angle Mort. Émission de critique sociale, de sciences sociales critiques, à l'occasion, pourquoi pas, d'expérimentation sociale aussi. Donc on a fini la lecture de cet article aux États-Unis, l'art de rançonner les pauvres, retour de l'usure dans une société gangrénée par le crédit. Article qu'on doit au journaliste Maxime Robin qui a été publié dans le journal Le Monde Diplomatique de septembre 2015. Il nous reste encore une demi-heure d'émission. Je vais en profiter en fait pour dire, parce que si j'ai pas dit les titres que j'ai diffusés, c'est parce que je pensais que j'aurais du mal à tout faire dans l'émission et qu'on était pressé par le temps, mais en fait pas du tout. Donc c'est l'occasion de revenir sur qu'est-ce qu'on a entendu, sachant que dire c'est l'occasion de revenir sur qu'est-ce qu'on a entendu, c'est bien sûr pas très 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 grammaticalement correct. Et donc on a entendu, et on l'entend d'ailleurs encore derrière nous, Drowning Dog et Malatesta avec le titre Class War, issu de l'album Got No Time, un groupe qui a été fondé à San Francisco en 2005, qui a commencé à tourner un peu plus régulièrement à partir de 2009, et qui est un groupe d'électro hip-hop qu'on pourrait qualifier d'anarchiste, et qui se qualifie eux-mêmes d'anarchiste. On a entendu ensuite Stupéflip avec le titre Argent, tiré de l'album Stup Religion. On a entendu également les Dead Kennedys, fameux groupe punk culte de San Francisco, là encore, avec le titre Kill the Poor, le premier titre de leur premier album Fresh Fruit for Rotting Vegetables, sorti en 1980. On a entendu ensuite Embrace, un groupe avec Ian McKay, donc c'était un groupe du mi-temps des années 80, je crois 85-86, qui a existé après l'époque Minor Threat de Ian McKay, donc je disais, mais avant Fugazi, donc pour situer un petit peu historiquement, et le titre s'appelait Money. Nous avons entendu également, j'aime bien faire cette liste, c'était Face Down In Shit, là on va dans du hardcore, donc c'était le titre Never Let Your Money Walk, et un titre issu de l'album Passing Times, et le dernier titre qu'on a entendu à l'instant, c'était Modern Life Is War. Avec le titre s'appelait Breaking the Cycle, on pourrait clarifier de ce titre d'appel à la révolte, tiré de l'album My Love My Way qui date de 2003. Modern Life Is War étant un groupe, on était là aussi dans du hardcore, hardcore punk, qui quant à lui est aussi un groupe américain, mais un groupe qui vient de Marshalltown dans l'Iowa et qui a été créé en 2002. Je sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Et bah, il nous reste quand même un petit peu de musique. On a devant nous un petit peu de musique à passer. Donc on poursuit avec de la musique. Et en l'occurrence avec Seize Upon the Capitol, du Hardcore Screamo de Nashville, Tennessee. Un morceau sans titre, mais qui traite en gros des représentations habituelles du bonheur, avec l'argent, la voiture et tout ça. Et de la sottise profonde de ces représentations habituelles du bonheur.
Yeah.
donc c'était... Non, c'était pas Drowning Dog, là c'est ce qu'on entend encore à l'instant, Class War, qu'on aura beaucoup beaucoup entendu ce soir. Donc c'était Seize Upon the Capitol, on poursuit, on a encore un petit peu de musique de côté. L'occasion aussi de remercier à nouveau l'ami Seb qui nous a envoyé les trois quarts des titres qui ont été passés ce soir, Class War, Stupefip, Face Down in Sheet, Modern Life is War et ce titre de Seize Upon the Capitol. Et c'est encore à lui qu'on doit et le titre suivant, à savoir La Cabine. Titre Insécurité, tiré de l'album Légitime Défense, occasion de rappeler que la précarité dont on a discuté, qu'on a évoqué là dans cette émission avec le cas états-unien et le cas du développement de l'industrie des prêteurs rapaces, eh bien la précarité existe néanmoins en France aussi, et ce titre le rappelle très bien, donc un groupe de rap originaire de Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. No the rich get rich and the poor get...
Dans le rétro des années 80, la peur dans le métro, à 20, rien que ça bougeait en bande, l'esprit vandale en espérant se blinder de compte en banque, une lame pour tout ce qui est vendable, rap le cuir et le dernier Walkman, on n'était pas plus serein, il y avait plus de seringues, les mêmes coups sur un, des embrouilles à 12 sur 1, ou dans un cul-de-sac à plus de 5, 30 ans de désordre, qu'on se bouche les oreilles quand les vérités sortent, nos enfants ne sont pas pires qu'avant, comme leurs aînés ils ont connu les mêmes bâtiments, à perte de vue, dur pour un fils quand on taf son père se tue. Le mal se perpétue avec un frère t'as les diplômes et pas de taf donc y'a plus d'études. Alors on cherche des thunes, la bac persécute. Nos gosses on s'en occupe, nos mères nous ont élevés sans aide aucune. Et personne s'en préoccupe, si ce n'est quand ils grandissent les keufs au cul que les juges inculpent. Quand les tasers électrocutent on s'avoue pas vaincu. J'ai une gueule mais grave, mon rap est crade comme nos russes dégradent. Grave, quand des gars braves et des petits bicraves ils rêvent de kebra, ça pense qu'à tes gras. Rien dans la tête, mais dessus le casque intégral. La cabine, la sécurité est sociale.
Insécurité, prétexte facile pour réprimer. Contexte docile pour faire passer. Amendement, loi et décret. Ici, une atmosphère tendue, voilà ce qu'il fait.
L'insécurité dont il parle, la porte ouverte à tout. Quand en campagne, ils partent, la scène un peu partout. Mais on récolte ce qu'on craint quand on crée la psychose. La jeunesse immigrée constamment mis en cause.
L'insécurité, c'est le chômage, la précarité, le manque d'argent, le quotidien et ses difficultés. C'est l'absence de papier, d'abri et de vêtements. Comment ne pas approuver l'action de droit au logement? Partisans de l'action directe, de la violence comme dernier recours. Quand le pragmatisme s'apparente plus à une branlette, camouflé sous les traits d'un beau discours. Ils vont sûrement parler de voitures cramées, de jets de pierre face aux gardiens de la paix. Moi je te parlerai de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, et d'enfants qui en France ont du mal à s'alimenter. De détresse sociale, de misère humaine, de discrimination à l'embauche. Quand l'égalité dans ce pays n'est qu'au stade de l'ébauche, l'insécurité, ce sont ces logements insalubres, ces incendies qui se déclarent dans des appartements lugubres. On n'est pas stupide, on sait qu'il y a pire ailleurs. Mais désolé, nous on se place du côté des tirailleurs. Enfant de l'immigration, je n'attends pas que la France m'aime. Malgré la haine, on va se battre et on va squatter quand même. Malgré la haine, on va se battre et on va squatter quand même. SO. Prétexte facile pour réprimer. Contexte docile pour faire passer. Amendement, loi et décret. Ici, une atmosphère tendue, voilà ce qu'il fait.
L'insécurité dont il parle, la porte ouverte à tout. Quand en campagne ils partent, la scène un peu partout. Mais on récolte ce qu'on craint quand on crée la psychose. La jeunesse immigrée constamment mis en cause.
Insécurité, insécurité. Prétexte facile pour réprimer.
Traquer,
contexte docile pour faire passer.
Contexte docile pour faire passer.
Amendement, loi et décret.
Ici,
une atmosphère tendue, voilà ce qu'il crée.
Ici,
une atmosphère tendue, voilà ce qu'il crée.
Une atmosphère tendue, voilà ce qu'il crée. Insécurité,
insécurité. We'll be right back.
conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
Donc on vient de s'écouter, toujours à l'écoute de Radio Camus, Radio Camus, Radio Canu. La cabine avec le titre Insécurité tiré d'album Légitime Défense. Et puis on va se passer un dernier titre. Après j'aurai plus rien dans ma besace. Ça sera donc à présent Arom Scarom. Du hardcore punk, on pourrait dire aussi, ou du punk hardcore pour varier. Narco, américain, là je pourrais pas vous dire d'où ils viennent, je m'en rappelle plus. Un groupe mixte et très très bon. Le titre s'appelle Trashed for Cash et c'était tiré de l'album Mental Health qui était leur premier album. Aussi leur album le plus péchu, le plus mon préféré en ce qui me concerne, même si ce qu'ils ont fait après est très très bon aussi. Et voilà, donc je vous laisse écouter ça, Trashed for Cash de Arom Scarom. Monetary mental, physical decay, monetary mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala vista. You cannot save wilderness in chunks. You can't have a little chunk over here and a little chunk over there, or it all dies.
Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé.
Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord. Mes propres boîtes de Pandore, boîte noire et caisse d'or. Mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement. Sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants. Parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort. Le vrai bug, le fort accord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps. La doublure, le doublon, canoncier dans le double fond. Le fond fuyant le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image. Le plus parfait des parfaits camouflage. Le trompe-l'œil épique, l'exacte réplique. Au carbone 14, certifié authentique. Mon 20 mesures cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre, et des territoires libérés s'inventent. Au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main. Claustro clandestin, les kleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Donc vous avez écouté l'émission Radio Canu, l'émission de Radio Canu intitulée Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. On vient de s'écouter à l'instant Arum Scarum, donc je l'avais annoncé, Trashed for Cash, tiré d'album Mental Health. Et c'est bon, là je suis arrivé au bout, hein. Je crois que j'ai plus de titres à vous passer ce soir. Donc il me reste plus qu'à vous dire a priori dans deux semaines, hein, sauf erreur, on continue ce rythme d'une émission toutes les deux semaines. Vous rappelez aussi que toutes les émissions qu'on a fait depuis le début d'ailleurs d'Angle Mort sont réécoutables sur notre blog, donc hébergé par le site de Radio Canu. Donc je pourrais pas vous dire l'adresse là de tête, mais en gros il faut aller sur le site de Radio Canu. Vous pouvez y aller très facilement en tapant Radio Canu sur n'importe quel moteur de recherche. Et une fois sur le site, allez sur l'onglet Le Blog des Émissions. Et une fois sur le Blog des Émissions, allez sur l'onglet Angle Mort. Et ensuite, vous aurez donc notre blog sur lequel vous pouvez réécouter toutes nos émissions, sur lequel vous pouvez laisser des commentaires aussi. J'en profite que j'ai du temps pour le dire. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra si on a voilà. Bon voilà, je crois que là vraiment je suis arrivé au bout. Je vous laisse avec la causerie, mais qui c'est pas tout de suite parce qu'il est 21h47, il faudra attendre un peu. Donc on va mettre un petit peu de bande 24-24 et puis après ça sera la causerie pour la suite des programmes sur Radio Canu.
Parce que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause. Souvent vue comme mauvaise, lors des bavures commises et sur qui pèse en temps de crise, de grandes mises en parenthèse. Je n'y peux pas grand chose si nous ne sommes pas en phase. Voici mes papiers, relevez mon adresse et mon place. Et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche
par des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant envers,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant envers,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant envers,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières,
je cherche les...